à la une de la presse, bien sûr, Frédéric Couteau, cette énième crise politique dont on vient de parler en Italie.
Oui, l'Italie n'en sortira donc jamais, s'exclame le journal de la Haute-Marne. Depuis la guerre, l'instabilité reste son mode de fonctionnement avec la constitution de 71 gouvernements. La démission hier du président du Conseil, Giuseppe Conte, n'est finalement que le énième avatar donc d'une tradition bien installée dans le pays. Mais cette fois-ci, le scénario a évolué. Le dynamitage de l'institution gouvernementale a commencé de manière saugrenue. En effet, c'est le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a appelé son propre parti à renverser le gouvernement auquel il appartenait. En effet, précise les Échos, cette crise de l'été 2019 est sans précédent pour la démocratie italienne, car elle met en scène l'un des principaux dirigeants populistes et souverainistes en Europe, le ministre de l'Intérieur. Matteo Salvini tient un discours franchement raciste, xénophobe et aux accents anti-européens, rappelle le quotidien économique. Il s'est fixé comme principal objectif de fermer les portes de l'Italie aux migrants, quitte à empêcher les navires humanitaires d'accoster dans les ports. Hier mardi, il n'a pas hésité une fois de plus à dénoncer une Europe soumise à Merkel et Macron. Et son ambition est simple, provoquer des législatives anticipées pour prendre les rênes du pouvoir en profitant d'une cote de popularité en forte croissance.
Toutefois, tempère la presse de la Manche, le forcing entrepris par Matteo Salvini pour obtenir des élections législatives anticipées ne débouchera peut-être pas sur le scénario imaginé.
En effet, explique West France, ce qui se joue dans les consultations politiques que le président Mattarella va entamer ce matin, c'est beaucoup plus qu'une simple dissolution ou un changement de majorité. La leçon de respect des institutions donnée hier à Salvini par un surprenant Giuseppe Conte en plein Sénat était éloquente. C'est la tenue de la culture parlementaire qui est en jeu, non pas face au populisme, terme trop générique, mais face à la déclinaison italienne d'un souverainisme de saut dans le vide, à la Trump, à la Boris Johnson, d'où la tentation, conclut West France, de la plupart des forces politiques italiennes à faire barrage à Salvini.
À la une des journaux également, le sommet du G7 qui va s'ouvrir à Biarritz ce week-end. Un sommet pour quoi faire, s'interroge la presse.
Et oui, conçu au départ en 75 comme un club des principales puissances occidentales, nous rappelle La Croix, le G7 s'est posé en forum bienveillant, s'intéressant notamment au développement de l'Afrique. Cela reste pertinent, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il étale ses divisions et ses fragilités, perturbées par les tensions politiques qui s'exacerbent chez la plupart de ses membres. Pour la Charente libre, il n'y a rien à attendre de ce grand raout. La plus grande réussite du G7 à venir ce week-end à Biarritz est qu'il ne s'y passe rien, s'exclame le journal. Il suffit d'anticiper de quelques jours sur la photo officielle du sommet pour comprendre qu'un bilan neutre serait déjà une grande victoire, estime encore le quotidien charentais, parce que chacun des protagonistes, ou presque, posera ses pieds en France avec la tête restée chez lui, malgré les crises internationales qui s'accumulent.
Alors certes, le dialogue est toujours plus louable que l'ignorance ou la confrontation, remarque Libération.
Oui, mais cette diplomatie de la connivence apparente de la proximité affichée s'avère marginalisée par les G20 lancés en 2008 sur les braises encore chaudes de la crise et battus en brèche par la légitimité réelle d'une COP où figurent près de 200 États. Et surtout, estime encore Libé, les contre-G7, ces rassemblements alternatifs qu'on tient à l'écart, ont historiquement été beaucoup plus féconds que leurs pendants officiels. C'est la culture alter qui a mis au premier plan dès les années 90 les inégalités planétaires, le dérèglement climatique, l'allègement nécessaire de la dette, autant d'idées qui ont été reprises en général avec 10 ans de retard par les chefs d'État des sommets suivants, avec parfois de tangibles décisions à la clé. En fait, pointe Libération, le bouillonnement militant a souvent servi de laboratoire aux rituels bien réglés des discussions entre chefs d'État. Il n'est donc qu'une manière, estime encore Libération, de dissiper la mauvaise image projetée par ce G7 casqué, s'arrêter sur 2 ou 3 décisions concrètes et utiles, par exemple une taxation planchée pour les multinationales, pour montrer que malgré les haies policières, les dirigeants des démocraties ne sont pas sourds à toute protestation.
Enfin, la rentrée politique en France ce mercredi, c'est fini les vacances pour les ministres. Ils se retrouvent ce matin pour le Conseil des ministre de rentrée.
Et Emmanuel Macron veut remettre son train de réforme sur les rails, pointe le Figaro en première page, entre la réforme des retraites, l'ouverture de la PMA pour toutes, les lois bioéthiques, la loi anti-gaspillage, la loi engagement et proximité pour simplifier le mandat des maires ou encore la préparation du budget. Le programme du gouvernement est chargé et potentiellement conflictuel. Ministre, il va falloir faire vos preuves, s'exclame pour sa part le Parisien. En effet, en cette rentrée, l'exécutif est toujours confronté au même problème, pointe le journal, pas assez politique, trop technique, les ministres ont du mal à imprimer dans l'opinion. On a un sacré banc de touche, ironise un conseiller ministériel. Il y en a plein que personne ne connaît, s'amuse un député de la majorité. L'avantage, au moins, c'est que Macron peut les changer quand il veut.
C'est dit. Merci beaucoup Frédéric Couteau pour la revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour les journaux africains. Il est 8h24 sur RFI.